Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus dans l'émission Au fil des pages. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Paternot. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Nous sommes contents de vous retrouver ici à ce micro. En effet, vous avez proposé un travail. Et la valse des ombres. Ce qui m'a étonné, c'est que la date de la rédaction de cet ouvrage, c'est marqué 2006. Mais en fait, il est publié en 2024.
C'est ça. C'est le hasard des rencontres et la rencontre avec les éditions L'Espace d'un Instant, qui est une édition héraultaise maintenant, et qui travaille sur le théâtre contemporain qui se passe autour de l'Orient ou des pays slaves.
Oui, d'accord, très spécialisé.
Voilà, c'est ça. Et donc, quand Dominique Dolmieux, qui est le directeur de cette maison d'édition, est venu s'installer dans l'Hérault, on s'est rencontrés, on a discuté, et c'est de là que je me suis dit, tiens, mais j'ai dans mes tiroirs le premier texte que j'ai écrit dans ma vie, et du coup, j'aimerais bien que ce texte-là existe ailleurs que dans mon tiroir. Oui. Et banco, il s'est dit, bah allez, on le fait, on prend le temps de le faire bien, et puis voilà, ça sort le jour de mes 40 ans.
Oui, effectivement, on le voit sur le texte que j'ai reçu en PDF, et avec un copyright de la Maison d'Europe et d'Orient, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire que la maison d'édition est liée avec à la fois un lieu qui le théâtre dans la forêt, qui est un lieu, comme son nom l'indique, un théâtre dans la forêt, et aussi une maison qui travaille pas que sur le fait de vendre des livres, mais aussi sur vraiment d'accompagner les poètes, d'accompagner les artistes, de travailler aussi sur les productions, de mettre en lien, et puis de faire aussi un peu de diplomatie, et il y en a besoin dans certains de ces pays.
Alors, il faut d'abord vous présenter, parce que ça fait quand même un certain temps que vous êtes venu, et certains ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes présenté dans cette édition comme un auteur occitan engagé.
C'est ça.
Alors, vous êtes ici connu comme acteur. Vous êtes connu aussi comme écrivain, et écrivain surtout de théâtre, et auteur de théâtre, et voilà, c'est ça surtout.
C'est ça, sur la quinzaine de textes que j'ai écrits en 20 ans, il y a vraiment au moins 10 pièces de théâtre, que ce soit des pièces pour enfants ou des pièces pour adultes.
Ouais.
Et c'est, voilà, après il y a un peu des nouvelles, de la poésie aussi, mais c'est très majoritairement, comme je viens de la scène, j'ai tendance à vraiment avoir envie d'écrire d'abord et avant tout du dialogue.
Et la dernière fois que vous êtes venu ici, c'était pour présenter un texte intitulé « Anduze », qui n'est pas une pièce de théâtre, mais un texte, je ne sais pas comment le qualifier, c'est pas un roman, c'est une
série de portraits.
Portraits littéraires. Tout à fait intéressant, qu'on a eu beaucoup de plaisir à lire et à présenter ici. Alors revenons maintenant à ce livre que vous venez de publier, « La valse des ombres », donc écrit en 2006, votre premier texte, vous dites, et c'était donc déjà un texte c'était une pièce de théâtre, hein, c'est dès le début.
Oui,
voilà. Et alors, il ne faut pas évidemment tout déflorer, parce que c'est un peu compliqué. C'est une pièce de théâtre dont l'action se passe en Orient, globalement en Orient. C'est pas très très. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est quelque part en Orient.
C'est ça, avec précisément en Arménie, et après on n'a pas plus d'informations que ça, et on est dans un village en tout cas, on n'est pas dans une grande ville, on est dans la campagne qui pourrait effectivement être partout. Même en Afrique.
Et la référence à l'Arménie d'ailleurs est très discrète, je crois qu'il y a le nom de la ville principale et... qu'on ne reconnaît pas forcément parce qu'elle est écrite en arménien. Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler justement dans cette région du monde? C'est que vous avez de la famille, vous êtes originaire de là-bas ou...
Et non, pas du tout. Il se trouve que c'était le moment de l'Arménie en France. Voilà, il y avait beaucoup de festivités autour de la question arménienne. Il y avait beaucoup de reportages à la télévision, de livres qui sont sortis à ce moment-là sur l'Arménie. Donc c'est un sujet qui m'a vraiment touché, ému. Et où l'histoire de ce premier génocide du XXe siècle m'a marqué, et aussi où je trouvais ça intéressant de partir d'un conflit un peu éloigné, donc qui pouvait permettre de sortir de l'actualité, tout en étant un conflit dont il faut faire perdurer la mémoire, pour que cela ne s'oublie pas, pour que cela ne se reproduise plus, pour aussi mettre un coup de projecteur sur les conflits qu'il peut y avoir encore à l'heure actuelle au Haut-Karabakh ou dans cette région-là du monde. Et aussi, parce que voilà, comme c'est un peu lointain dans le temps, ça permettait aussi de parler plus généralement de la question des populations civiles et du terrorisme et de la terreur qui peut être répandue sur les populations civiles pendant une guerre et de montrer cette chose-là.
Voilà, c'est effectivement ça. Votre texte est intemporel. Il se réfère à un conflit, mais ça peut être n'importe lequel. Ça pourrait être un conflit du XVIe siècle comme du XXe siècle.
Oui, il y a tout à fait. Comme on n'a pas du tout... c'est vraiment autour des populations civiles. Donc, du coup, la question des techniques et des technologies de l'armée sont pas en lien là-dessus. Et c'est à la fois une question intemporelle et aussi une question géographique, puisque ça pourrait vraiment se passer dans n'importe quel coin du monde. Malheureusement, la barbarie a cela d'universel.
Oui. Alors peut-être il faut dire aussi que ce texte, votre texte, le livre a été préfacé par...
Gohar Galustian.
Gohar Galustian, qui est une jeune femme qui est spécialiste des questions arméniennes.
C'est ça, qui fait partie de la diaspora arménienne française, docteur maintenant en droit sur aussi des questions de droit international et qui travaille beaucoup sur la reconnaissance à la fois des conflits des meurtriers surpassés et de la présence de l'Arménie aujourd'hui sur la scène internationale. Et c'était effectivement important pour moi, outre le plaisir personnel que j'ai que ce soit elle qui le préface. Comme justement, moi, ça n'est pas mon histoire personnelle et je ne viens pas de cette contrée-là du monde. C'était aussi l'idée de pouvoir être bien, qu'on soit, voilà, que tout le monde soit bien d'accord sur l'idée que oui, ça nous parle de l'Arménie et j'essaye d'en être le plus fidèle possible, mais c'est aussi beaucoup plus vaste et beaucoup plus général, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'elle a repéré et qu'elle a mis en avant dans sa préface.
Et quand vous avez écrit ce texte, vous l'avez écrit pour être une pièce de théâtre, mais vous l'avez joué vous-même ?
Alors, il y a eu quelques lectures du texte qui ont été mises en place, et là, on est en train de voir et de travailler pour que la représentation puisse exister, puisqu'il y a trois personnages seulement, dont un frère et une sœur, et c'est assez...
Et deux personnages annexes.
Voilà. Et puis l'idée qui est, au maximum, ça peut se jouer sur un décor très, 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 très presque nu.
Et les lectures ont été bien reçues, les lectures que vous avez faites du texte, les lectures publiques
Oui, tout à fait. Alors après, c'est un texte assez rude, assez brut. Mais d'un jeune homme de 20 ans. Et c'est ça qui marque le plus aussi.
Ben, on va faire une petite pause et on reviendra après. pour parler du texte.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Camarades, sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM à Nîmes, et c'est en DAB+. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Toutes nos émissions sont podcastées, donc vous pouvez les retrouver. Aujourd'hui, c'est donc au fil des pages avec Bruno Paterno, qui est écrivain et acteur, et qui nous propose le premier texte qu'il a écrit, La valse des ombres, publié en 2006. Et je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la présentatrice qui dit ce texte doit être joué avec amour.
Ça, c'est moi.
C'est vous, oui.
Oui, parce que déjà, le fond de l'air est rude.
Oui.
Et peut-être que ce que j'avais aussi envie de dire avec ce texte-là, c'est que quand la guerre est présente autour de la famille, il y a de fortes chances que celle-ci explose ou implose. Et la seule chose qui arrive à nous sauver de ça, c'est l'amour. Donc là, en l'occurrence, c'est l'amour fraternel entre un frère et une sœur. Mais... c'est cet amour qui va nous aider. Si la résilience n'est pas possible, si le pardon n'est pas possible entre les meurtriers et les victimes, peut-être que ce qui peut nous sauver, c'est que l'amour des autres est une force encore plus forte et encore plus puissante que la violence qu'on peut subir.
Oui, c'est un c'est un texte, d'une certaine manière, très actuel aussi, puisqu'on parle de cela. Alors, l'action est très simple, et ça, c'est une fête, le début d'une fête familiale. Un mariage va être célébré, vous avez la sœur, Sophia, et qui se dispute un peu avec son frère. J'étais surpris parce que à lire, on a l'impression que c'est un gamin. Enfin, il se comporte un peu comme un petit gamin. Il se dandine sur sa chaise et sa sœur le reprend, lui disant « Mais attends, on se prépare. » Et elle, voilà.
C'est ça. Et finalement, on verra qu'il est peut-être plus adulte qu'elle et qu'il a... Même si au départ, voilà, on a l'impression qu'il a pas tant que ça grandi, qu'il est resté un peu figé dans l'enfance. Finalement, sans trop révéler ce qui se passe après, les choses s'inversent. Oui. Et c'est plus elle qui reste bloquée au niveau du trauma et lui qui bouge en fait,
oui,
finalement
alors,
beaucoup plus.
Et au début, on ne sait pas du tout justement dans quel cadre c'est. On se dit c'est une fête comme on en célèbre chez nous. À tout moment, un mariage va se passer, on se prépare, etc. Et puis, les choses évoluent petit à petit, très, très lentement, avec un paroxysme à la fin, mais on ne va pas en dire plus, parce que ce n'est pas déflorer le sujet, avec des personnages attachants, quelquefois drôles, et puis des situations qu'on rencontre aussi dans tout, partout, quoi. Je veux dire, des bavardages, des compliments, des critiques très voilà, on se sent, on n'est pas dépaysé du tout. C'est pas, il faut pas s'imaginer que parce que ça se passe en Arménie, non, c'est vraiment la culture générale. Ça pourrait se passer, j'imagine, au fin fond de l'Afrique, comme
Oui, j'étais aussi beaucoup marqué par les grandes pièces de Tchekhov. Alors là, il y a beaucoup plus de personnages. La mienne est beaucoup plus modeste, mais effectivement, c'est comme dans ces grandes familles russes du 19e siècle, ou effectivement comme les films d'Emir Kusturica. Voilà, ça pourrait être dans plein d'endroits là-dessus, d'endroits différents. Et c'est aussi pour montrer ce parfait et pur amour que peuvent avoir ce frère et cette sœur. Il est aussi fait de petites choses et de tout petits riens, de presque rien et de je ne sais quoi, qui font que petit à petit cette relation se tisse et qu'on la perçoit. Dans les premières scènes, c'était important de commencer là-dessus.
Oui. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure si vous l'aviez déjà joué. Vous m'avez dit que vous l'avez fait lire. Est-ce que depuis qu'il est publié, enfin, c'est récent, parce que il est sorti de presse en septembre dernier, donc au début du mois de septembre, donc il vient de sortir.
C'est ça, il est tout chaud.
Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que des gens seraient intéressés de le jouer, d'après ce que vous savez, ou vous-même, vous avez des projets dans ce sens?
Oui, on a l'envie de ça, et il y a eu effectivement des... c'est tout l'intérêt d'écrire du théâtre, c'est que c'est un cadeau en deux étapes, c'est-à-dire que c'est d'abord un cadeau d'un écrivain pour des acteurs et des actrices, et ensuite un cadeau pour des spectateurs ou des spectatrices. Et là, voilà, clairement pour moi, c'est d'ailleurs je l'ai écrit en pensant à un duo très précis de personnes. Hein, j'écris pour des voix, j'écris pour des voilà. Même si ça pourrait être un grand auteur de texte qui s'appelle Valère Novarina, qui a écrit un texte qui s'appelle Pour Louis de Funès, où il dit voilà, j'écris pour Louis de Funès, même s'il est mort depuis très longtemps, j'écris pour cette voix là pour ce rythme là pour ce corps
là. Là, vous pensez déjà à des copains ou des
c'est ça,
oui, c'est ça. C'est intéressant. Et donc, vous, certainement que vous allez le jouer à Nîmes si vous le mettez en scène, enfin si quelqu'un le met en scène. Vous avez un metteur en scène déjà en vue
Non, pour l'instant, Est-ce qu'un auteur peut être...
Est-ce que vous pourriez être votre propre metteur en scène?
Alors, il y en a qui le font, pas moi. J'ai essayé une fois, puis c'était pas très bien parce que je ne fais que mettre sur le plateau ce que j'ai écrit. Il n'y a pas une couche supérieure, une idée autre qui arrive, qui vient rendre tout ça un petit peu complexe. Et il y a plein de moments c'est plus compliqué pour moi. Je suis pas la meilleure personne pour le faire, notamment parce que moi je n'écris pas sur le plateau, j'écris dans ma chambre. J'arrive pas en répétition avec un texte qui ne serait pas écrit.
C'est souvent le cas, non? Des personnes qui écrivent des textes, c'est souvent pas eux qui les mettent en scène.
C'est ça. Oui. Quand ça arrive, c'est
deux fonctions un peu différentes.
Quand ça arrive, c'est ce qui est le cas par exemple de Joël Pomera, c'est-à-dire qu'il arrive avec des idées, des improvisations, des propositions, et puis il prend ce que font les acteurs et après il le retisse, il le remélange. Oui. Et là, du coup, comme c'est lui qui donne les propositions et après qui retravaille, là, ça peut tout à fait se justifier. Ce qui, moi, dans mon cas, comme j'arrive, le texte est fini, à part quelques petits coups de crayon par-ci, par-là, c'est moins intéressant que ce soit moi, plutôt quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai évidemment... Je suis le seul à ne pas très bien savoir ce que j'ai écrit et avoir des points aveugles dans ce qui est écrit.
Et ce n'est pas un texte très long. Apparemment, le voir comme ça, 35 pages. Et ça, on peut évaluer la longueur d'une pièce de théâtre dans laquelle il serait joué.
Oui, ça dépend aussi vraiment. Contrairement à la musique, nous, le rythme et le tempo ne sont pas écrits dans le texte.
Oui,
donc,
voilà.
Du coup, c'est pas très...
Oui, il peut y avoir des moments sans parole, forcément.
C'est ça. Et puis... en fonction de donc c'est un texte tragique, en tout cas qui parle d'une tragédie de l'histoire. Donc selon comment on veut faire ressentir cette question tragique, si on décide de mettre de l'attention par du silence, ou au contraire de mettre de l'attention par de la brutalité, ça va aller beaucoup plus ou beaucoup moins vite.
Oui.
Donc pour moi, c'est plutôt une pièce très courte, un peu coup de poing, et qui va durer maximum 45-50 minutes pour être quelque chose d'extrêmement efficace. Sinon, au contraire, oui, ça peut durer.
Oui, mais il faut... Ça, c'est le metteur en scène, en rapport avec vous, cale les choses. Très bien. Vous écrivez, alors vous nous avez dit que vous écrivez du théâtre depuis longtemps. Déjà, en 2006, vous avez un premier texte. Vous en écrivez toujours. Et vous en jouez, certaines de vos œuvres sont jouées actuellement ou vont l'être d'autres.
Alors ça, il y a des choses qui se font, surtout dans le théâtre amateur qui en France est très dynamique et qui très souvent soutient d'ailleurs les écritures contemporaines.
Oui.
D'ailleurs, les écrivains contemporains sont plus joués dans les troupes amatrices que Molière, Racine ou Tchekhov. Notamment aussi parce qu'on écrit des textes pour les femmes et il y a beaucoup de comédiennes femmes qui ont envie d'avoir des beaux rôles. Et d'ailleurs, là...
C'est le cas pour Sophia.
C'est ça. Ce texte-là, c'est avant tout un cadeau pour une actrice. En tout cas, je l'espère. Et donc, du coup, il y a beaucoup de troupes amatrices en France qui jouent certains de mes textes, des scolaires aussi, parce que j'ai beaucoup écrit pour les collèges, pour les lycées. Donc là, c'est pareil, c'est la difficulté de trouver une pièce qui va être assez courte, mais avec beaucoup de personnages, pour que justement toute la classe puisse jouer et en même temps que ça ne dure pas 3 heures parce qu'ils n'en auront pas le temps. Et celle qui joue le plus, elle s'appelle Roi des Amazones. C'est une réécriture du mythe de Penthésilée.
Mmh. Et ça, c'est vous l'avez écrite, c'est une pièce que vous avez écrite ?
C'était une commande d'une, d'une troupe amatrice qui, qui m'a commandé un texte voilà, pour qu'ils puissent le jouer. Donc j'avais la durée à peu près, il fallait que ça dure à peu près une heure, la distribution très précise. Et ensuite, j'aurais dit, tiens, est-ce que ça vous va si,
c'est intéressant de...
Si, puisque, alors à l'époque où je l'ai écrite, depuis, il se trouve que la même année, on a été quatre écrivains et écrivaines à avoir la même idée, de se dire, c'est bizarre, il y a des Phèdre et des Médée dans tous les sens, mais Andromaque et Penthésilée sont des personnages voilà, qui, dans le théâtre, ont eu peu de réécriture.
Oui.
Dans les mythes, donc des Antigone, vous en avez 3000, et des Penthésilées, voilà, des Amazones, on avait celle de Kleist, et c'était à peu près tout. Et donc, voilà, il y avait cet intérêt-là d'aller reprendre ce mythe-là.
Ben on espère que des troupes vont écouter cette émission et auront envie de la jouer, et que peut-être que vous trouverez à Nîmes qu'elle sera jouée, quoi, qu'on puisse aussi non seulement la lire, mais aussi la voir.
Oui,
vous avez d'autres textes en cours, là, un peu comme les portraits que vous aviez faits dans Duse ou d'autres styles, des romans ou des choses comme ça ?
Oui, toujours des choses. Là, je suis en train de travailler sur un autre texte. Donc, j'ai fini entre-temps une pièce pour des collégiens. Qui s'appelle Allez hop, tout le monde à la manif, et qui est sur la question du militantisme et de l'engagement. Et puis là, je suis en train d'écrire un texte, mais un texte sur les lumières et sur l'éclairage, un texte plus théorique.
Oui.
Donc complètement autre chose.
Et vous jouez aussi avec ça, vous avez le temps d'être acteur.
Et oui, c'est vraiment mon activité principale, donc ça, oui. Le plus possible.
Bon, mais écoutez, merci beaucoup Bruno Paterno d'être venu nous voir, de parler de ce livre. Donc, La valse des ombres, un texte écrit en 2006 et dont l'action se situe en Arménie, mais elle pourrait se situer aussi bien en France aujourd'hui ou hier, il y a 100 ans, j'espère pas dans 100 ans, mais voilà. Et revenez nous voir avec d'autres textes.
Soyez
le bienvenu.
Avec un grand plaisir.
Voilà.
Et sinon, aussi une autre actualité littéraire, c'est le prix Hemingway qui a été décerné là, et donc qui était édité avec 13 autres lauréats, et donc je suis dans les 13, et donc le 20e, les 20 ans, donc le 19e prix Hemingway, voilà, le livre édité aux éditions au Diable Vauvert est disponible avec une de mes nouvelles à l'intérieur.
Et quel est son titre ?
Et elle s'appelle Picador des couloirs.
Un Picador des couloirs. Mais c'est important parce qu'on a une émission qui s'occupe de questions de tauromachie. Donc, ils seront intéressés de le lire. Ils ont peut-être trouvé, voilà. Et même bravo. Alors,
merci.
Lauréat de ce prix Hemingway. Eh bien, je vous dis au revoir. Au revoir à nos auditrices et nos auditeurs. Au revoir à Bruno Paterno. Et à bientôt.
À bientôt. Au revoir.